Jamais la force d'occupation française n'aurait cru pouvoir voir un jour de pareils jours au Mali, où elle est littéralement assiégée par une armée malienne qu'elle a toujours méprisée et humiliée. Voici un premier État sahélien qui, après avoir décidé de s'allier aux puissances amies comme l'Algérie et la Russie, puis de reprendre le contrôle souverain de ses régions nord et d'en expulser royalement Barkhane, puis de descendre vers le centre Bamako et là encore refaire le même coup et remplacer Barkhane par Wagner, revient sur les accords militaires imposés par la France, ce qui constitue une révolution en soi. RFI en parle en ces termes. Fin décembre, les autorités françaises ont été officiellement saisies pour renégocier les accords de défense qui lient les deux pays. Signés une première fois au début de l'opération Barkhane, ils ont pourtant été renouvelés l'an dernier pour 5 ans. Ces accords de défense entre un pays et une nation étrangère sont essentiellement des accords juridiques qui sont là pour garantir la protection des soldats français et fluidifier également les opérations militaires en permettant une liberté de circulation. Et c'est bien cette liberté de mouvement que le pouvoir malien veut renégocier. Liberté de mouvement, terme que toute armée étrangère imposant sa présence néfaste à un pays et à une population utilise pour désigner l'occupation. Car que les militaires français fassent impunément irruption dans tel ou tel quartier, dans tel ou tel village, sous prétexte à y avoir à combattre les terroristes, puisqu'ils décident de s'y installer définitivement alors même que dès leur arrivée, le nombre d'attaques terroristes augmente de façon exponentielle, cela ne s'appelle pas la liberté de circulation d'un allié, mais l'occupation des territoires souverains du Mali, avec tout ce que cela compte comme conséquence pour la sécurité, l'économie et le bien-être des Maliens. Idem pour l'espace aérien malien où des avions de combat français apparaissent quand ils le veulent sans même demander la permission de l'armée malienne et d'où ils larguent bombes et munitions sur n'importe quelle zone qu'ils désirent évidemment sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Ce qui est très paradoxalement, et de nombreux témoignages l'ont confirmé, se solde non pas par la mort des fameux djihadistes, mais par celle des civils, forcés ainsi à l'exode. Aussi c'est ridicule quand RFI écrit « La semaine dernière, Bamako a ainsi dénoncé une violation de son espace aérien par un avion de transport logistique de l'opération Barkhane. Renégocier, cela équivaut à mettre des bâtons dans les rues françaises, souffle-t-on à Paris. La France cherche justement à gagner du temps. La réponse aux autorités maliennes est en cours d'élaboration, dit-on, tout en précisant que les Maliens n'ont pas demandé la résiliation des accords, mais de simples amendements. La négociation ne fait que débuter. Mais Barkhane est-elle sûre que ces accords finiraient par n'être qu'amendés? Au train où vont les événements, le Grand Mali donne l'impression d'avoir opté pour une stratégie très subtile de pression par palier. Mais en quoi consiste la stratégie militaire du Mali? Elle consiste à ne pas rompre totalement avec la force d'occupation qui, en plus de 8 ans d'occupation, a vampirisé toutes les composantes et institutions de l'État, mais à resserrer sur lui l'étau de façon à ce qu'elle se retire elle-même et entièrement. Et quel est l'avantage d'une telle stratégie? C'est un peu comme en Irak où la présence américaine constitue un allié par dépit de la lutte contre cette présence. Car qui de mieux que s'attaquer les soldats américains, leurs convois militaires, leurs bases de campement, pour que le Pentagone soit neutralisé et finisse par comprendre qu'il est temps de partir. D'ici les semaines à venir, c'est cette perspective d'une guerre d'attrition parsemée d'attaques anti-Barkhane qui attendent celle-ci. Mais il y a pire, cette guerre anti-occupation ne restera pas dans les confins maliens. Tout le Sahel que les forces colonialistes ont si longtemps tenté de diviser est derrière le Mali. Mine de rien, Barkhane commence à saigner au Burkina, car 4 soldats français ont été blessés, dont un grièvement au Burkina Faso, lors de l'explosion d'un engin explosif Au passage de leur véhicule dans le nord du pays, a annoncé mardi soir l'état-major français. L'attaque s'est produite dans le désert de Gourma, non loin de la frontière entre le Burkina et le Mali. La région est sous l'emprise des groupes affiliés à Al-Qaïda. Les patrouilles de militaires y sont donc fréquentes, dit RFI. Omettez la dernière phrase et prenez le reste, car Al-Qaïda, Daesh et tous ces groupes terroristes et leurs créateurs des services secrets occidentaux qui infectent le Sahel ne tirent jamais sur les Occidentaux. C'est curieux, la prévision d'il y a à peu près d'un an du chef de la DGSE sur la contagion terroriste du Sahel vers la côte a du plomb dans l'air. Il y a d'abord ce Mali que le clan occidental croyait à jamais soumis et qu'il s'est mis à en faire baver la France sans avoir aucune méfiance envers les Américains et les Otaniens, ce qui fait qu'il continue à resserrer les liens avec les voisins et les pays de l'Est. Puis, il y a cette découverte au port de Dakar que RFI médiatise très timidement comme s'il y avait quelque chose à cacher. Le navire Iolica battant pavillon du Guyana venait d'Italie selon les déclarations du capitaine et avait pour destination supposée la République dominicaine, affirme une source bien informée. Elle souligne que le bateau est resté près des côtes sénégalaises durant un délai assez long avant de faire escale au port de Dakar pour ravitaillement, ce qui a attiré l'attention des douaniers. Et RFI d'ajouter, l'absence de documents fiables de navigation et de transport maritime, et surtout les incohérences des déclarations du capitaine, ont mené à un contrôle approfondi. Et de poursuivre, les services de douane ont donc découvert trois conteneurs remplis de munitions de 9 mm et de 5,56 mm. Ces munitions sont en général utilisées pour les fusils d'assaut d'origine occidentale et les membres d'équipage, un ressortissant grec et trois Ukrainiens ont été placés en garde à vue. Eh bien, à qui étaient destinées ces armes occidentales trafiquées par des passeurs ukrainiens dont le pays est largement impliqué dans la bataille contre la Russie? Sans doute au réseau dont parlait il y a un an la DGSE, dans l'espoir de pouvoir affecter le Sénégal à partir de ses côtes. Car sur le sol, aussi bien le Mali que le Burkina empêchent toute infiltration. Reste à savoir si le président Macky Sall, bientôt chef de la CEDEAO et dont la population a manifesté en signe de solidarité avec le Mali, en tirera ou non la leçon qui impose. Certes, il a affirmé qu'il est avec le Mali, mais il faut des actes et non pas des paroles. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en sanctionnant le Mali, la France et ses alliés ont visé toute l'économie de l'Ouest africaine que leur pandémie inventée de Covid-19 n'a pas pu mettre au pas. Voici comment parle Jeune Afrique de l'impact économique de cet embargo sur le Sénégal. Aucun des États de la communauté n'a intérêt à que cette situation dure. L'interdépendance entre le Mali et les autres pays de la zone fait que la fermeture des frontières terrestres et maritimes touche par ricochet les pays voisins, avertit un haut cadre de la banque au Mali. Le Mali est un pays enclavé qui trouve un débouché maritime vers les autres pays. Le port de Dakar vit à plus de 50% des produits qui doivent aller vers le Mali. La fermeture des frontières impactera donc Dakar. Il en va de même pour la Côte d'Ivoire qui vit du bétail malien. Si la situation perdure, le kilo de viande risque d'augmenter en Côte d'Ivoire. Le Sénégal se tire une balle dans le pied. En sanctionnant le Mali, on sanctionne le Sénégal aussi. En embraillé sur les réseaux sociaux et les médias locaux, divers commentateurs de l'économie et de la politique sénégalaise. Ces derniers pointent un fait indiscutable, la place prépondérante du Mali, premier client du pays dans le commerce extérieur du Sénégal. « L'armée malienne a neutralisé du 10 au 16 janvier courant plusieurs dizaines de terroristes, a annoncé l'état-major général des armées du Mali dans un communiqué. 14 terroristes, dont le chef de base Hadji Modibo Ba, fortement recherché, ont été neutralisés le 16 janvier courant dans une opération dénommée Keletigi dans la zone de Tara Bakoro Akor Djeddah, a déclaré le colonel Soleiman Dembele, directeur de l'information et des relations publiques des armées. L'état-major général des armées du Mali a indiqué que le 14 janvier 2022, lors d'une patrouille de reconnaissance offensive de l'opération Keletigi dans la zone sud, précisément dans la localité de Tiéré, frontalière du Burkina Faso, 4 terroristes ont été neutralisés et 3 suspects interpellés et mis à la disposition de la gendarmerie. Selon le document, 6 terroristes ont été tués lors de frappes aériennes le 10 janvier courant dans le secteur de Songo, cercle de Bankass, dans la région de Monpi au centre du pays. Le gouvernement ivoirien met en place un système digitalisé de contrôle fiscal. Depuis le 1er janvier, la Côte d'Ivoire dispose d'un système digitalisé de contrôle fiscal. Il a été présenté aux acteurs du secteur privé le mardi 18 janvier, on a appris dans une note d'information publiée le même jour sur le site internet du gouvernement ivoirien. Ce système, qui vise à vérifier le niveau de conformité fiscale, permettra à l'administration de renforcer la neutralité de la programmation des contrôles basé sur des critères objectifs d'analyse risque, et il permettra également de suivre efficacement la traçabilité des contrôles fiscaux au niveau de la hiérarchie. D'après les autorités ivoiriennes, cette nouvelle réforme permettra aux entreprises de bénéficier de plus de transparence, de célérité, de suppression des chevauchements tout en améliorant la gouvernance et l'éthique au niveau du contrôle fiscal. Ali Bongo convoqué au tribunal le 21 janvier. Dans l'affaire qui l'oppose à Appel à agir, un collectif n'ayant pas cessé d'émettre des doutes quant à ses aptitudes à continuer de diriger le pays après son accident vasculaire cérébral survenu en octobre 2018, le chef de l'État, représenté par ses avocats, est attendu devant la Cour de cassation le 21 janvier prochain. On croyait l'affaire close, il n'en est visiblement rien. Vendredi prochain, l'affaire opposant Ali Bongo à Appel à agir sera remise au goût du jour, 2 ans après ses débuts. Rappelons que quelques mois après l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo, le collectif Appel à agir, composé de 10 membres issus des partis de l'opposition et de la société civile, avait souhaité qu'une expertise médicale sur les aptitudes du chef de l'État soit effectuée.